La bidule, c'est la bibliothèque du peuple. Une première ligne entre le lecteur néophyte ou pas, et le livre et ses bouts de liberté. Lire n'est ni vain ni neutre. Viens tenter la rencontre avec un texte. Les mots contiennent les outils forgés pour briser nos chaînes. www.libertaire.noblog.org. La bidule, prêt gratuit et anonyme, 6, rue des Grottes à Genève.
Voilà, nous sommes en direct, chers auditrices, chers auditeurs, depuis le festival Nemesis. Nemesis, le peuple versus le WEF. Le WEF, c'est l'acronyme du World Economic Forum qui se tient la semaine prochaine à Davos. Une petite station, enfin non, ça n'est pas une petite station, mais c'est une station grisonne, perchée à 1500 mètres d'altitude dans le canton des Grisons en Suisse, qui va accueillir à peu près 2500 invités. Et pour accueillir ces 2500 privilégiés, eh bien, il s'agit de 5000 soldats qui sont mobilisés. Et évidemment plein de personnels connexes de ces 5000 soldats et qui vont donc protéger ces petites personnes, qui vont discuter entre elles et puis qui vont peut-être refaire un petit peu le monde, en tout cas pratiquer le lobbyisme au secret de petits fours et de petits salons et de petits bains à remous, alors que tes impôts vont évidemment payer les joujoux des militaires hein, qui se baladent en avion autour de ça. Etc. Donc samedi 13 et dimanche 14 janvier, Nemesis, le peuple versus le WEF, car protester est insuffisant, ce qu'il faut c'est créer ailleurs et créer autrement. Alors on va tenter de le faire ici avec le programme de ce festival, dans lequel tu vas pouvoir immédiatement, enfin dans quelques minutes, écouter et peut-être intervenir si tu le souhaites, une causerie autour de RIE3, la réforme de l'imposition des entreprises.
www.libradio.org.
Alors vous êtes là parce que vous avez monté ce collectif, créé ce collectif concernant RIE3, ou bien vous avez rejoint ce collectif ?
Non, bah en fait, il a été un peu créé in extremis hier, on va dire. Non, dans le sens où, en fait, on s'est un petit peu sensibilisé à l'histoire de RIE3 et puis pas mal scandalisé, bah, nous deux et d'autres personnes. Et puis on s'est dit que ben voilà, il fallait vraiment pouvoir faire quelque chose parce que c'est beaucoup trop grave ce qui nous arrive dans la figure. Et puis que le problème de ces votations, c'est quand même toujours, c'est toujours la même chose, c'est toujours la droite hein, qui arrive à avoir des opérations coup de poing, je dirais, et puis il y a des slogans qui parlent à une majeure partie des gens, des personnes qu'on n'arrive pas forcément à toucher avec. Avec c'est pas la propagande, mais avec l'information traditionnelle, on va dire. Et puis on s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose un peu de visuel, de assez fort, où les gens se sentiraient concernés pour essayer d'inverser cette tendance de la droite très forte au niveau des publications, en fait, qui peuvent apparaître.
Ouais, le principe maintenant des votations, c'est de plus en plus, comme dans les jeux vidéo, c'est pay to win. Donc c'est celui qui a le plus de moyens qui emporte la mise. Et donc c'est un peu pour contrer ça, pour avoir des flyers, des affiches, des choses un peu plus percutantes qui parlent aux gens plus que des longs textes syndicaux d'explications. Voilà.
Alors voilà, parce qu'effectivement, on a, il me semble, un déficit d'information. Est-ce que je me trompe lorsque je dis que à la droite, nous avons des gens qui sont, j'ai l'impression, mais j'espère que je me trompe, très au fait et très informés du truc. Et puis à la gauche, peut-être un déficit d'information, ou en tout cas, parmi la population, je dis ça parce qu'effectivement, ici, dans le quartier des Grottes, quand on en parle, et ça va introduire les prochaines questions qui vont arriver, eh bien, les gens lèvent encore les yeux au ciel. Quand je leur dis RIE3, Déjà, l'acronyme, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la signification de l'acronyme. Et puis, dès qu'on entre un petit peu en matière, ça a l'air d'être assez alambiqué, peut-être à dessein d'ailleurs, vous allez nous le dire, mais alambiqué au point où les gens, finalement, c'est répulsif. Les gens n'entrent pas et ne comprennent pas les enjeux.
Bah, disons que déjà, quand on entend la réforme de l'imposition des bénéfices des entreprises, franchement, c'est déjà un terme assez indigeste. Donc, les gens sont malheureusement dans leur routine. Et puis, du coup, ça fait un truc qui, de prime abord, ne semble pas les concerner parce qu'ils ne sont pas montés en entreprise, parce qu'ils sont la personne qui doit gérer ses deux boulots, son ménage, sa famille, etc. Et qui, du coup, prend pas le temps de s'intéresser à l'actualité. En plus, on leur vend le truc comme quoi c'est quelque chose de hyper bien, qui va leur faire du bien, qui va sauver Genève, qui est hyper important, etc. Et du coup, voilà, ils suivent un petit peu ça. Et puis, c'est comme tous les... je reviens souvent là-dessus, mais c'est tout comme tous les slogans du MCG pour les frontaliers. Les gens, c'est même pas forcément qu'ils sont contre les frontaliers au départ. C'est que simplement, on leur dit, vous avez ça comme problème, c'est à cause des frontaliers. Vous avez ça comme problème, c'est à cause des frontaliers. Au bout d'un moment, voilà, il faut un responsable, et puis il est tout désigné, on leur tend ça sur un plateau, et puis les gens prennent, mais plus par ignorance, mais pas par ignorance, par manque de moyens intellectuels, mais juste par ignorance, et puis par manque de temps, etc. Et du coup, on avait envie de pouvoir essayer de faire des images un peu plus parlantes, et qui touchent un petit peu plus les gens en leur montrant ce qui va leur arriver, et que non, c'est pas parce qu'on n'a pas d'entreprise qu'on n'est pas concerné. Bien au contraire.
Ouais. Alors effectivement, parce que dès lors qu'on entre un peu dans la technicité de ce truc, j'ai l'impression qu'on n'en sort pas. C'est un peu comme des sables mouvants. Alors j'ai envie de vous demander, que faut-il savoir de fondamental qui va arriver si la RIE 3, donc le vote prochain, ce sera donc le 12 février,
oui.
Si la RIE 3 passe à Genève?
Alors, d'abord, il faut savoir que ce vote fédéral, y a donc c'est pas au niveau fédéral qu'ils vont mettre le pourcentage d'impôts nouveaux. C'est-à-dire, on va repartir à zéro. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, les entreprises suisses, et ça inclut les multinationales suisses, genre Nestlé, elles payaient 24% d'impôts sur les bénéfices.
Voilà, il s'agit bien des bénéfices
et
des entreprises.
Et sur les bénéfices nets.
Exactement.
Ouais. C'est-à-dire
ça, c'est important de le dire.
Les salariés sont imposés pas sur leurs bénéfices nets, sinon il n'y en aura pas beaucoup qui seraient imposés, mais sur leur chiffre d'affaires, en fait.
Absolument.
C'est-à-dire la différence entre les entreprises et les gens, tout le monde, c'est que nous, on est imposé sur notre chiffre d'affaires, tandis que les entreprises sont imposées sur leurs bénéfices nets. C'est-à-dire qu'il y a 60% des entreprises qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne font pas de bénéfices nets. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont déduit toutes leurs charges, ils n'ont plus de bénéfices. Donc ça, c'est une première chose à mettre en plan. Donc 60% des entreprises ne payent déjà pas d'impôts. Donc au niveau cantonal, il va y avoir une concurrence à la baisse entre tous les cantons, c'est-à-dire le canton de Vaud s'est déjà positionné à 13,5%.
Un truc comme ça.
Et après, ça va être la foire d'empoigne pour baisser, pour être en dessous du canton de Vaud. C'est-à-dire. Maintenant, au niveau international, actuellement, à 24%, on est au niveau de la France.
De l'Allemagne.
Non, on est 10% ouais. Déjà moins cher
que la France.
On paye déjà 10% de moins que la France. Et donc, en baissant à 13%, on sera au niveau de l'Irlande, de Chypre et puis de
la Roumanie, je crois.
Liechtenstein, ouais. Et puis de la Bulgarie.
Ouais.
Donc c'est vraiment les pires, les plus bas, le plus bas taux européen. Et donc ça va être, en fait le but, c'est de niveler les entreprises suisses avec les entreprises internationales qui ont leur siège en Suisse.
Oui, et puis après, l'histoire, c'est justement, ces entreprises étrangères, elles avaient des taux d'imposition favorables par rapport aux entreprises locales. Hein. Et au lieu de créer une sorte de moyenne, d'en baisser quelques-uns et puis d'en monter quelques-uns, bah, ils ont décidé de mettre tout le monde au taux le plus avantageux. Ce qui est motivé par le fait que... si on fait pas ça, les entreprises vont se délocaliser, vont partir, et du coup, au niveau économique, ça va être une catastrophe pour Genève. Alors que c'est pas vrai du tout, parce que justement, les pays qui seraient en concurrence par rapport à ce taux-là, et qui sont déjà en concurrence avec le taux actuel, donc à 20 et quelques, là, eh ben, c'est des pays qui, de toute façon, n'ont pas d'attrait autre que ce taux d'imposition. Ouais. Mais après, pour être moins dans le détail, moi je dirais, alors après c'est mon domaine, mais je suis beaucoup plus sensible à ce qui se passe actuellement dans le social et dans le domaine de la santé, où on voit que c'est déjà absolument catastrophique. On a quelques exemples qu'on pourra donner plus tard, mais c'est déjà la catastrophe. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si Rier 3 passe, concrètement, voilà, ça veut dire que l'État de Genève va recevoir 500 millions de moins dans ses caisses par année. Donc c'est un truc de fou. Je crois se faire erreur que c'est les frais de fonctionnement globaux de l'hôpital. Mmh. Et du coup, c'est déjà des domaines qui sont de plus en plus précarisés, où les prestations sont de moins en moins... adéquate, on va dire, et satisfaisante. Et puis, c'est quelque chose où on va largement couper dedans. Là, la droite, avec cette Rier 3, a décidé de favoriser tous les actionnaires, de favoriser toutes ces entreprises à haut niveau, parce qu'on ne parle pas de celui qui a sa petite boucherie ou bien son petit salon de pressing ou comme ça, qui est une entreprise, mais qui ne rentre pas en ligne de compte. Donc, lui, il n'aura pas ces bénéfices-là. Donc, il va continuer à galérer pareil. Hein. Et... Donc c'est vraiment que pour une infime partie de la population qu'il va y avoir des avantages, alors que tous les autres vont casquer. Parce que tous ces sous qui vont manquer, eh ben, ils vont les prendre où ? Ils vont les prendre chez les salariés, ils vont couper dans les prestations. Mais ça va être quelque chose de dramatique. Moi, je vois par exemple je me suis un peu forcée à rester dans le concret par rapport à ça. Donc, ce qui se passe exactement au niveau politique actuellement, par rapport aux discussions, aux négociations qui sont en ligne de compte et tout, je ne suis pas très au courant. Mais par contre, on voit Rier 3, c'est donc la troisième réforme d'imposition. Et concrètement, s'il n'y avait pas eu Rier 1 et Rier 2, la dette de l'État, qui est actuellement à, je crois, 13 milliards et des poussières, elle aurait été remboursée en 2015.
Ouais. Donc la perte pour la RIE 2 a été 10 fois plus élevée que ce qui avait été prévu. Donc si on extrapole à la RIE 3, si on prévoit qu'il y aura 10 fois plus de pertes, donc ça va être des milliards et des milliards en moins pour tous les services publics, quoi, au niveau de toute la Suisse.
Et qu'il va bien falloir éponger d'une manière ou d'une autre.
Voilà, ouais. Exactement. Et puis, pour dire dans les exemples... on a des faits vraiment très criants qui sont donc avant cette votation, donc qui vont être mille fois pires. Une personne dans un hôpital qui arrive pour des problèmes cardiaques, qui arrive aux urgences pour une suspicion de crise cardiaque, a attendu 10 heures dans sa chambre sans voir une seule infirmière, un seul docteur, rien du tout. Parce que c'est pas parce que les infirmières ou les médecins voulaient pas passer, hein, je veux dire. C'est simplement parce qu'ils ont je sais pas combien de patients à voir en même temps, et que concrètement, cette personne, elle aurait pu crever dans son lit, derrière les rideaux, puis qu'il s'en serait rendu compte 10 heures plus tard. Donc ça, c'est pour l'hôpital. Après, on a des exemples pour dans les institutions aussi de faits juste dramatiques qui se sont passés. Pas si tu veux...
Mais ça veut dire que toutes ces... Selon vous, tous ces salariés et salariés qui, j'espère, sont-ils déjà au fait de ce qui leur pend au nez ? Et y a-t-il du coup, au sein, j'imagine, au moins au sein des syndicats, des services publics, etc., déjà une résistance qui s'est mise en place ? Parce que, si je ne m'abuse, la campagne officielle du non à la RIE 3 commence la semaine prochaine. Je crois qu'il y a une réunion qui est proposée dès la semaine prochaine au café Gavroche. Je vais retrouver la date. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que les salariés sont déjà au courant ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de nouveau ce déficit d'information. Est-ce que c'est ça le problème ?
Alors, ils ont mis cette votation en février pour bénéficier des vacances, des fêtes de fin d'année, justement pour qu'il n'y ait pas de possibilité de mobiliser, d'expliquer à la population les vrais enjeux de cette réforme. En plus, là, ils vont vraiment mettre le paquet au niveau de leur campagne, c'est-à-dire ils ont tout préparé pour qu'il y ait une attaque massive d'arguments bidons, etc. Et on n'aura pas le temps de faire une contre-argumentation, etc. Donc voilà.
Ouais. Et puis c'est sûr que quand on reçoit un tout ménage, réforme fiscale, oui, ils disent tous oui et on liste les gens, donc le Conseil national, le Conseil des États, la Confédération des cantons, les chefs cantonaux des finances, les communes suisses, le PLR, le PDC, l'UDC, le PBD, les Verts libéraux, tiens donc, l'Union suisse des arts et des métiers, l'Union patronale suisse, etc., etc. Tout ça, ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Et effectivement, ça fait une com qui inonde.
Oui, mais dans leurs propres termes, eux, ils ont parlé de grand soir patronal. C'est-à-dire, c'est même pas les syndicats qui disent ça, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, les patrons, c'est leur grand soir. C'est leur, là, ouais. Et ils ont une position extrêmement idéologique parce que c'est pas du tout dans l'intérêt. C'est-à-dire, à long terme, ils se tirent une balle dans le pied parce que qu'est-ce qui intéresse les entreprises internationales dans le choix d'un pays ou d'un autre ? Ce qui les intéresse, c'est la stabilité politique du pays. Un bon niveau de sécurité, la qualification de la main-d'œuvre, un cadre de vie agréable pour leurs dirigeants, des universités, des hautes écoles, un système bancaire performant, des infrastructures de haut niveau. Et tout ça, ça demande une certaine paix sociale, etc. Et si on diminue toutes les prestations, tous les services publics, etc., mais ça va être Beyrouth ici. Donc c'est totalement contre-productif. Je veux dire, s'il y a des Genève, c'est petit, c'est un petit état, c'est une petite ville, mais s'il n'y a pas de stabilité, s'il y a des émeutes, etc., mais je veux dire, là, ils vont foutre le camp, vraiment.
Ouais. Certainement. Effectivement, c'était le sens de ma prochaine question. Je voulais savoir si, selon vous, effectivement, les atouts de la Suisse ne sont-ils pas ceux-là, ceux auxquels on va assister pendant justement le forum, le World Economic Forum, où justement des gens peuvent venir et puis tranquillement parader ici sans être a priori inquiétés, et que ça risque de changer parce que finalement on va plonger des pans entiers de la population dans la précarité.
Oui, c'est déjà le cas, c'est-à-dire il y a de plus en plus l'aide sociale, etc., renvoie à des fondations privées parce qu'il y a des gens qui sont de plus en plus précaires et qui rentrent pas dans les cases de l'aide publique.
Ouais. Alors, quelles sont vos prochaines étapes à vous, sachant qu'effectivement le vote, bien, il est pour tout de suite, pour le 12 février. Comment est-ce que vous allez réussir à faire avancer un petit peu cette contre-information, à faire surgir cet esprit critique ici à Genève ?
Ben là, on s'est lancé dans la création de dessins qu'on aimerait pouvoir afficher, faire en flyer pour essayer d'avoir justement, comme on disait, des images un peu flash. Donc là, on a eu Pierre-Alain Curchaud de PACAP, hein, qui est un dessinateur de presse, hein, qui a été très sensible à cette histoire de Rillet 3. On lui a donné quelques informations et qui s'est tout de suite senti concerné. On lui a soumis quelques idées pour des dessins et puis il est vraiment parti dans son idée en suivant notre base, et il nous a fait des magnifiques dessins. Donc il y en a 5. Et puis là, on est dans la phase finale. Les dessins ont été terminés et puis on va les faire imprimer pour les distribuer. Parce que ben, comme disait Daniel avant, le problème c'est que ben il y avait les vacances. Bien et sûr. Puis que ben là c'est immédiatement là. Le 12 février, c'est quasiment demain. Et en plus, c'est le dimanche, c'est le premier dimanche des vacances scolaires. Donc autant dire que tous les gens qui d'habitude vont plutôt au local de vote, ils seront sûrement en vacances et c'est le dimanche matin qu'ils vont se rendre compte que Le vote, ils pourront pas le faire.
Ouais. Où est-ce qu'on les... Alors, vous allez les distribuer les... Comment est-ce que vous allez les faire? Est-ce qu'on pourra les voir? Est-ce qu'une expo, des petites choses comme ça, des petits événements autour de ça, sont-ils d'ores et déjà prévus ou c'est en gestation?
Alors, c'est encore pas mal en gestation. Après, ben, c'est effectivement à diffuser largement par le biais des réseaux sociaux, par des sites ou comme ça. Et c'était justement cette idée-là de pouvoir toucher par le biais des réseaux sociaux qui drainent une sacrée partie de la population qui ne vont pas forcément ouvrir le journal et puis regarder de quoi il en est et de se taper des monstres articles avec plein de mots compliqués et puis d'essayer de faire passer un petit peu... un petit peu des messages. Par exemple, si je prends les dessins, il y a le premier là que j'ai sous les yeux, c'est deux mains qui sont jointes avec la terre au milieu puis plein de gens autour avec la Suisse qui est en rouge et c'est écrit en gros non à la Riée 3 le 12 février 2017, votons ensemble. Et puis il y a un petit peu vraiment toute la population en fait qui est représentée en disant que ben voilà on est tous touchés et que là maintenant il faut vraiment agir ensemble pour pas se faire avoir quoi.
Ouais. Comment avant qu'on commente aussi les autres dessins, mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a encore des gens qui vont voter pour ce truc, enfin selon vous, parce qu'à un moment donné c'est vrai que c'est assez incroyable même pour des personnes qui auraient les moyens. L'exemple de la crise cardiaque est assez parlant parce que la crise cardiaque ça touche aussi les gens peut-être plus nantis que d'autres, je veux dire. Ce que j'ai reparlé, alors effectivement, après, on peut aller dans des réseaux de soins privés, j'entends bien, mais il y a un moment donné où l'urgence va nécessiter que l'hôpital cantonal, qui est non seulement un hôpital cantonal, mais un hôpital universitaire, donc qui assure une formation continue des médecins ici, donc c'est important, je veux dire. Comment est-ce qu'on peut en arriver à être à ce point aveuglé par cette histoire de gros sous et d'être tellement attractif qu'on en devient... plus attractif au bout du compte.
Bah déjà, la presse est globalement sous contrôle, c'est-à-dire ta média contrôle déjà une grande partie de la presse. Enfin, je veux dire, y a, à part le courrier, au niveau presse, il n'y a aucun journal qui est prêt à mettre en critique
ça vous l'avez observé effectivement hein, qu'il y a un ostracisme de ce côté-là en tout cas.
Fait. Ouais. Globalement les partis à part le parti socialiste a effectivement une position assez ambiguë, c'est-à-dire au niveau cantonal.
Voilà, ouais.
Puisque dans le canton de Vaud, ils ont voté la réduction à 13,5%. Au niveau fédéral, donc là il y a Sandrine Salerno et Hodgers qui se sont fait piéger parce que effectivement au niveau cantonal ils étaient prêts à appuyer une baisse des impôts à 13%, mais au niveau fédéral, parce qu'en fait la différence entre le niveau cantonal et le niveau fédéral, c'est que au niveau cantonal ça va être de baisser donc de 25% à 13%, mais 13% ça veut rien dire, c'est-à-dire si en fait, ce qui compte, et ça va être l'enjeu de cette votation, c'est que c'est l'assiette sur laquelle est calculé l'impôt qui compte. Parce que si la loi passe, les grandes entreprises vont pouvoir baisser jusqu'à 80% l'assiette sur laquelle est calculé leur impôt. C'est-à-dire que ce ne sera pas un passage à 13%, mais ce sera beaucoup moins, c'est-à-dire ce sera un passage au pire à 2,6%. C'est-à-dire ils vont plus payer d'impôts, c'est-à-dire les services publics vont être financés par les salariés, point barre.
Oui, parce qu'en plus de ces histoires de la baisse des impôts sur les bénéfices, il y a le fait qu'ils vont pouvoir déduire les frais de recherche.
Alors,
j'ai plus exactement en tête, mais c'est les frais de recherche et développement qui vont pouvoir déduire,
à
150%, donc une fois et demie. Et en plus, ils vont encore pouvoir déduire quelque chose par rapport au capital hypothétique de s'ils étaient cotés en bourse.
C'est-à-dire, donc, ils investissent dans leur entreprise, ils peuvent déduire des impôts le bénéfice qu'ils auraient fait s'ils avaient placé en bourse alors qu'en fait, actuellement, il y a des taux négatifs, mais on compte que voilà, s'ils avaient placé en bourse, ils auraient 15% de bénéfices en plus. Donc ça, ils peuvent le déduire des impôts. C'est un truc complètement absurde, quoi, qui est complètement débile.
Oui, il y a des situations qui touchent à l'absurde.
Et ça, pour expliquer ça aux gens, bah, déjà, si on arrivait à, si la majorité des gens arrivaient à comprendre ça, mais ça passera jamais. C'est pas possible parce que c'est tellement absurde, tellement insensé que.
Et comment peut-on expliquer qu'un salarié de base, au bout du compte, paierait plus d'impôts proportionnellement qu'une grande entreprise qui ferait un bénéfice net hallucinant ? Ça touche à l'absurde.
Oui, complètement, complètement. Et en plus, quand on sait que par exemple les allocations familiales, eh ben, on doit aussi les déduire des impôts, quoi.
Ouais, et un taux de 13...
Enfin, elles font partie de ce qui est compté.
Un taux de 13,5%, ces grandes entreprises payent proportionnellement autant qu'un ouvrier non qualifié qui gagne 5000 francs par mois. L'ouvrier, comme la grande entreprise, paye 13 francs 49% pour 100 francs gagnés, sauf que pour le premier... ça s'arrête à 5000 francs, alors que pour une entreprise, c'est des millions et des millions, et que la progressivité de l'impôt, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est celui qui gagne le moins qui paye proportionnellement beaucoup plus, d'autant plus que, c'est-à-dire l'ouvrier, c'est sur son... Je le rappelle, c'est sur son chiffre d'affaires, c'est-à-dire
exactement.
C'est sur l'argent brut,
exactement,
tandis que... Pour les entreprises, c'est le bénéfice. Non seulement c'est le bénéfice, mais c'est le bénéfice net. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont gavés dessus. Quoi,
exactement. C'est que les salaires ont été payés, voilà. Que toutes les charges ont été payées, etc.
Alors que nous, bien sûr, c'est avant. Ouais. Et après, avec ce qui reste qu'il faut qu'on paye tout le reste.
Ouais. Alors comment est-ce que vous avez certainement pu déjà parler de ça un maximum autour de vous ? À quoi avez-vous été confronté ? Plutôt de la méconnaissance, plutôt des gens qui étaient plutôt un peu... Ceux qui savaient, des gens qui sont plutôt scandalisés du truc, ou une sorte de doux déni. Voilà, quelles ont été les réactions que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent ?
Alors moi, c'était soit... Effectivement, les gens qui étaient au courant étaient absolument scandalisés, et puis... De toute manière, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre comme réaction que d'être scandalisé. Mais énormément, énormément, énormément de méconnaissance. Et oui, ben voilà, RIE 3, c'est un truc qui revient et puis on va laisser passer, en gros.
Ça veut dire que quand on sait, on est a priori contre.
Oui.
Plus facilement contre. Donc en fait, le travail, il est là. Il est vraiment dans cette contre-information qu'il faut faire avancer. Alors voilà, donc les dessins, très bonne idée. Donc ils vont être notamment diffusés via les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Vous avez d'autres modalités déjà prévues ? Ou bien c'est vraiment là-dessus que vous allez mettre le paquet, la priorité ?
Ça va être posé à droite, à gauche et à disposition.
Campagne d'affichage également, ça c'est prévu, des choses comme ça ou...
Oui, on a pour le moment peu de moyens, donc on va essayer de voilà, on appelle à tout le monde à se servir de leur photocopieuse. Et
c'était pour ça que je vous le disais, justement, ça veut dire que
d'en coller vers chez eux ou leur passage quand ils croisent des panneaux d'affichage.
Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, ils seront peut-être sur un site téléchargeable, que les gens pourront eux-mêmes, soit dans un format électronique, les propager via les réseaux sociaux,
comme
disait Laurent, soit les imprimer et puis aller, pourquoi pas, les afficher un petit peu partout. D'accord. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait un blog ou un petit site ou une adresse mail pour que les gens puissent se les procurer et puis peut-être se procurer quelques informations de base, peut-être justement l'interprétation de ces dessins ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous habite, ou bien c'est vraiment...
Non, il faut aller sur les sites des syndicats. Il y a une très bonne vidéo qui a été faite par le cartel intersyndical. Qui s'appelle...
Le casse du siècle.
Le casse du siècle.
On le projette ici en boucle également. Ouais. Tout à fait. Alors ça, on recommande à tout le monde d'aller voir cette vidéo.
On n'est pas les seuls. Il y a quand même du matériel qui circule. Et voilà.
Tout à fait. Non, mais je crois qu'il faut être un maximum de gens sur le coup. Nous-mêmes, du coup, j'espère qu'on pourra les propager. Je voulais, à ce titre-là, rappeler que, en vue de la votation du 12 février prochain, la société civile, tout le monde est invité à l'apéro jeudi 19 janvier prochain à 19h au Café Gavroche. Le Café Gavroche, ça se situe 4 boulevard James Fazi, pour une soirée conviviale autour de la campagne non à la RIE 3. Donc ça, c'est lancé par Solidarité et Ensemble à Gauche. Donc RIE 3, la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Au programme, présentation des enjeux. Le fameux film de campagne que l'on trouve d'ores et déjà depuis un moment d'ailleurs sur YouTube et qui s'appelle RIE 3, le casque du siècle, qui est très très bien fait.
Oui, il est bien fait.
Ouais, foire aux questions, discussions libres, matériel de campagne, etc. Venez partager un apéritif avec nous pour mieux comprendre la réforme et ses conséquences et affûter vos arguments, récupérer flyers et affiches et passer un moment convivial. Donc, je le rappelle, c'est le jeudi prochain, 19 janvier à 19h au Café Gavroche. Ça se situe 4 boulevard James Fazi à Genève. Voilà. Une question ? Alors, présente-toi peut-être. Ah, attends, alors, j'ai... Quel est... Oui, parce que Sarah n'est pas là. Quel est le numéro de ton micro ? Numéro 2. Vas-y. Parle un petit peu dedans.
Bonsoir.
Voilà, c'est bon. Tu peux aller.
Donc, je m'appelle Sam, tout simplement.
Bienvenue.
Merci. J'avais une question qui m'intéresse. J'ai vu quelques reportages tout à l'heure sur... un ordinateur qui était présent dans la salle. Et ce que je vois d'assez important, c'est qu'on voit le problème, vraiment. On pose que les problèmes, en fait. C'est-à-dire, comme l'entreprise va gagner des bénéfices, quand on parle de l'entreprise, j'imagine qu'on parle surtout d'un chef d'entreprise qui va gagner des bénéfices, pas l'entreprise, et que les employés vont gagner leur vie aussi et la dépenser forcément dans le pays et faire en sorte de pouvoir survivre dans cette ville qui est la nôtre. Maintenant, si on écroule ces entreprises, d'où va venir ma question, si on écroule ces entreprises, les travailleurs qui travaillent dans ces entreprises vont aussi ne plus pouvoir subvenir leurs besoins et devoir trouver d'autres emplois, on est d'accord. Mmh. Et est-ce vraiment la bonne solution de faire en sorte que ces entreprises se déplacent dans d'autres endroits ? Ou plutôt, j'ai encore une autre question, n'est pas quelque chose qu'on a déjà vu justement dans ces documentaires, n'est pas plus intéressant que les employés de ces entreprises, c'est une question particulière, mais aient ces entreprises, c'est-à-dire qu'elles aient une appartenance à ces entreprises et que les parties de ces entreprises appartiennent à ces employés.
Ah oui, mais ça, c'est un changement de société. C'est pas du tout à l'ordre du jour de cette votation.
Bien entendu.
Bien sûr, ça, c'est effectivement qui est. Mais bon, ça demanderait justement d'exproprier le patronat. Ça, on rêve que de ça, mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment.
Je ne parle pas de les exproprier aujourd'hui. Mais si ces entreprises n'ont pas besoin de payer d'impôts aujourd'hui, mm-hmm. et qu'un jour, les employés qui créent et qui veulent avoir ces entreprises demain n'ont pas besoin de payer d'impôts, qu'arrivera-t-il ?
Je crois que là, il faut pas mélanger. On va d'abord répondre à la première question parce que la deuxième, j'ai pas l'impression d'avoir compris vraiment ce dont tu voulais dire. Donc là, par rapport à la première question, déjà les entreprises qui, donc là, on a déjà dit la plupart des entreprises ne sont pas touchées. C'est-à-dire 60% des entreprises qui, elles, emploient des travailleurs ici ne sont pas touchées. Celles qui sont touchées, ça va être des grosses boîtes comme Rolex et compagnie.
Un Plenia, Manor ou ce genre
Plenia,
de choses.
Plenia, Manor, etc.
Combien de milliers de personnes emploient Rolex ?
Moi je sais pas, mais par exemple, je sais que c'est une crainte en disant bon bah voilà, si les entreprises elles doivent payer plus d'impôts, ils vont licencier, etc. Mais quand on voit par exemple actuellement l'histoire qui se passe dans l'horlogerie, hein, où ils ont des millions et des millions de bénéfices en fin d'année, et ils font quoi ? Ils saquent dans le personnel. Ouais. Et blam, ils ferment 45 postes ici.
Ils
en ferment 120 de l'autre côté. Donc il ne faut pas se dire qu'après, s'ils payent moins d'impôts, ils vont virer les gens. De toute manière, s'ils gagnent plus d'argent parce qu'ils peuvent déduire encore plus des impôts, ils vont continuer à virer les gens. Ce n'est pas vrai qu'ils vont continuer à redistribuer cet argent.
Non, je continue à répondre à ta première question. La question, elle n'est pas répondue encore. La question, elle n'est pas répondue. La question, je réponds à ta première question.
On a le temps.
L'histoire, c'est à qui profite. C'est ça l'histoire. À qui ça profite ? Ça profite aux aux actionnaires. C'est uniquement pour payer des... C'est pas pour les salariés. Les salariés, ils vont rien gagner là-dessus. Ça va profiter aux actionnaires de ces entreprises.
Très bien.
Voilà, j'ai répondu maintenant.
Très bien. Maintenant, on a mis des choses très différentes en place. Là, on parle d'une entreprise Rolex, par exemple. Rolex qui est une fondation, en fait. Donc, c'est une entreprise particulière parce que Rolex est une fondation, donc elle n'a pas d'actionnaire. Elle ne rentre pas dans les actions et n'a aucun besoin de répondre à des actionnaires. Donc, elle ne rentre déjà pas dans le système financier tel qu'il existe aujourd'hui. Après, une entreprise qui est actionnaire, telle que Google ou d'autres entreprises qui ont des actions, elles
Rolex
vont...
n'est pas une fondation. Il y a une fondation Rolex qui a payé, qui s'appelle la fondation Wilsdorf. Mais Rolex, c'est une entreprise capitaliste comme une autre, hein, je veux dire.
Oui, mais le capitalisme est une mauvaise chose, de votre point de vue, bien entendu, et de mon point de vue aussi, parce que le capitalisme n'est pas réellement le problème, à mon avis. Le problème, c'est la vision qu'on a du capitalisme et la façon qu'on essaye de le voir et qu'il est utilisé. À nous de peut-être utiliser ce capitalisme pour faire en sorte qu'il soit différent, vu qu'il est présent en permanence. On ne peut pas faire autrement que de vivre avec aujourd'hui. Et il va nous imposer sa vision en permanence. On est d'accord avec ça. On se bat contre quelque chose qui est très difficile à identifier, mais il faut peut-être essayer de le comprendre le mieux possible pour l'utiliser, le faire d'une autre manière. Et je ne crois pas qu'en essayant de se battre en se battant contre des gens très très puissants, on va pouvoir réussir à faire quelque chose. Mais par contre, si on essaie de créer de petites entreprises qui fonctionnent d'une manière capitaliste, mais au final sont redistribuées pas aux employés, on joue le système du capitalisme, mais on finit par faire gagner l'argent également à chaque personne qui travaille dans l'endroit. Et que chaque personne qui est à l'endroit, que ce soit le patron, l'employé, la secrétaire, gagne la même chose. Au final, on crée une société capitaliste, mais juste.
Non, mais là, le capitalisme, c'est un rapport social de domination. Le capitalisme, c'est un rapport social de domination. C'est pas seulement une histoire de capital, etc. Non, c'est une société de marché, c'est-à-dire c'est une société qui est basée sur le profit de quelques-uns au détriment de la majorité. C'est
totalement
ça, le capitalisme.
Juste. Oui,
donc toi, ce que tu rêves, c'est de l'autogestion. L'autogestion, c'est quelque chose de totalement différent. C'est sortir du capitalisme, l'autogestion.
Mais l'autogestion, on peut la faire en utilisant les lois du capitalisme. C'est ça que
non,
je veux dire.
Non, pas du tout. Non, c'est absolument impossible.
Pour quelle raison ?
C'est totalement antinomique. Le capitalisme... Il est né au 16e, 17e siècle sur la domination, sur le patriarcat déjà. Ça a commencé avec l'expropriation des communs, c'est-à-dire tous les communs, les enclosures, etc. C'est-à-dire, donc après, il y a une résistance, notamment des femmes qui ont lutté parce que c'était leur survie. Donc ces communaux qui étaient expropriés par la noblesse et les grands propriétaires. Et donc c'était... Et après, pour lutter contre ces femmes, on a mis en place la chasse aux sorcières. Oui, la chasse aux sorcières, c'était une des ripostes de... Et ça, c'est lié avec l'État, c'est-à-dire l'État... La gauche, il y a une... La gauche... prétend que c'est possible de lutter contre le capitalisme en renforçant l'État. Et la droite prétend que c'est possible de faire un capitalisme à visage humain en supprimant l'État, en diminuant l'État. Mais les deux sont des utopies. C'est totalement utopique. Pourquoi ? Parce que l'État et le capitalisme sont liés. L'État-nation et le capitalisme sont liés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas... Le libéralisme, c'est une utopie, et la gauche, c'est une utopie aussi.
On parle que de problèmes.
On va juste recentrer
les solutions.
Non, mais les solutions, elles existent depuis très longtemps. Simplement, on n'en parle pas, et personne ne veut en parler. Tous ceux qui ont un intérêt dans la domination ne parlent pas des solutions. Les solutions, elles ont été mises en place, elles ont été essayées. Elles sont réprimées systématiquement, et on n'en parle pas dans les médias.
On reviendra sur des discussions de fond concernant le capitalisme avec beaucoup de plaisir. Mais voilà, on va recentrer sur RIE 3 parce que c'est ça qui nous inquiète en ce moment. C'est ça la prochaine échéance. Il y a une forme également d'égalité face à l'impôt. Peut-être qu'il faudrait juste également rappeler comment se fait-il qu'effectivement des gens, des simples citoyens, eux, seraient ponctionnés systématiquement, et on l'a vu de quelle manière, alors que des grandes entreprises, elles, pas. Il y aurait tout simplement qui sont d'égalité. Et puis peut-être que les grandes entreprises profiteraient également des infrastructures qui sont mises en place. Comment ? Eh bien, bien entendu, par les impôts. L'éducation, la santé, comme vous l'avez dit, toutes ces infrastructures-là, tout simplement les routes, la sécurité, eh bien, tout ça a un coût, et que ce coût, eh bien, on sait que ce coût va évidemment être, enfin, ça va être compliqué de l'assumer, de plus en plus compliqué de l'assumer, puisqu'on a clairement au moins planché 500 millions de francs qui vont manquer dans les caisses de l'État si la réforme passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, il faut voter non. On se mobilise, effectivement, parce que là, bah oui, juste pour reprendre la discussion qu'il y a eu là, oui. L'autogestion, ce serait une magnifique solution. Elle est à travailler chacun de notre côté à petite échelle. Mais concrètement, là, maintenant, où on en est, on ne peut pas se permettre d'attendre de créer de l'autogestion à petite échelle pour ensuite prendre de l'ampleur. Là, maintenant, la situation est trop grave. C'est pas normal qu'une personne qui soit en suspicion de crise cardiaque attende 10 heures dans un service hospitalier. C'est pas normal que des personnes en institution ne puissent même pas être levées pendant des jours et des jours par manque de personnel. C'est pas normal que des décès ne se soient pas rendus compte en temps et en heure et qui apparaissent plusieurs jours après le décès réel. Ça, c'est des réalités. Je veux dire, c'est des institutions où les personnes ne peuvent même pas sortir, même pas avoir une seule activité par manque de moyens, et ça, c'est des choses qui vont vraiment, vraiment, vraiment augmenter. On râle parce que les heures d'ouverture pour aller faire ses papiers, par exemple, je veux dire, ça concerne même pas les personnes handicapées ou enfin certaines personnes en marge de la société. Ça concerne tout un chacun. Tout un chacun doit aller faire ses papiers, doit aller au bureau des autos ou n'importe quoi.
Priori,
on râle déjà.
L'école reste obligatoire a priori pour tout le monde.
Exactement. Et on va bourrer l'école avec des tonnes et des tonnes d'élèves, avec de moins en moins de moyens, avec des situations qui vont s'envenimer. Je veux dire. Où va-t-on aller par rapport à ça ? Et il y a 1% de la population qui se regorge de dire que c'est le grand soir patronal, on a tout gagné, on va être picsou à se baigner dans du fric, pendant que les autres, ils vont ramasser des miettes, et encore, si les miettes, il n'y en a pas. Maintenant, ce qu'il faut vraiment faire, c'est faire prendre conscience aux gens, par tous les moyens à notre disposition, avec le temps à disposition de chacun, parce que, ben voilà, oui, il faut aussi qu'on bosse, hein, je veux dire, malheureusement, et que chaque personne sensibilisée puisse sensibiliser au moins, je ne sais pas, 3-4 personnes. 3-4 personnes qui ensuite vont sensibiliser 3-4 personnes, histoire de faire vraiment une votation massive par rapport à ce 12 février, et puis que vraiment ils arrêtent de nous prendre pour des couillons. Je veux dire, là, il y a une des affiches, c'est la population qui est dans une casserole, qui est en train de mijoter avec la main de quelqu'un qui clairement présente tous les attributs du riche. Je veux dire, c'est la fable de la grenouille. Ils sont en train de nous cuire à l'eau chaude. Et puis, sauf qu'ils nous ont trempés dans l'eau froide au départ, donc du coup, on trouve ça assez agréable. Puis tout d'un coup, on est tout cuit. Et puis, ils sont là, on vous a bien eu. Et nous, on fait quoi ? Eh ben, on les regarde et puis on dit « Oui, oui ». Eh ben non, c'est non qu'il faut dire.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces informations ? Alors là, on a parlé des dessins, mais pour des personnes qui justement nous écoutent et qui ont envie justement de s'armer pour pouvoir par la suite en parler autour d'elles, comment est-ce qu'on trouve ces informations ? Y a-t-il des sites comme ça que vous auriez envie de recommander ?
Oui, il y a les sites, des sites syndicaux, hein, et puis il y a aussi, il va y avoir des tables pour des distributions de tracts. Il va y avoir de l'information dans la rue dans les semaines qui viennent.
Ouais. Donc on le rappelle, c'est la votation RIE3, c'est le 12 février prochain. On le rappelle également le jeudi 19 janvier prochain, donc à 19h au café Gavroche, 4 boulevard James Fazi. La soirée conviviale autour du lancement de la campagne non à la RIE 3, ça c'est de la part de Solidarité d'Ensemble à Gauche. L'IDES 1, ce sera bientôt dans la rue et puis sur les réseaux sociaux. Nous, on va essayer effectivement de les relayer. Un petit événement quand même est prévu, je me souviens plus si je vous ai posé la question ou pas. Est-ce que vous avez quand même une sorte de, voilà, pour marquer le coup, un peu l'inauguration des dessins, une sorte de vernissage, un petit truc comme ça est prévu ou pas encore ? On pourra en parler si jamais.
Alors, non, en tout cas, d'accord, pas pour l'instant. C'est à discuter. Là, j'ai un peu de peine à voir Pierre-Alain Curchaud qui nous a gentiment fait les dessins et que je remercie beaucoup d'ailleurs. Pour voir un petit peu justement quelle est la suite et puis voir ce qu'on peut imaginer, parce que ben, comme tout un chacun, c'était aussi les vacances pour nous.
Ben oui, ben il faut bien. Y a-t-il parmi nous des personnes qui auraient des questions ou des remarques à faire? Si ce n'est pas le cas, je regarde, non, rien de spécial, non. Bon, ben alors, quelle est la question que je ne vous ai pas posée? Ou quelle est la remarque que vous auriez envie, avec laquelle vous auriez envie de terminer cet entretien?
Ben, moi, je reviens sur la fable de la grenouille. Arrêtons de nous faire cuire.
Très bien. Et puis, non au cadeau fiscal injustifié aux grandes entreprises et à leurs actionnaires, qui bénéficiera vraiment qu'aux grandes entreprises et à leurs actionnaires. Donc, c'est une arme de destruction massive contre les services publics.
Ok. Je vous remercie beaucoup. Encore une petite remarque. Est-ce que vous aurez envie de dire quelque chose, de réagir par rapport, puisque c'est Némésis? Donc vous savez, hein, la figure mythique de Némésis, cette espèce de vengeance juste qui vient comme ça s'abattre sur les personnes qui de petite vertu. Et quand je dis petite vertu, je parle bien des capitalistes financiers. Ce festival concerne, enfin, il est là également parce que nous avions envie de faire ailleurs autrement que le World Economic Forum, qui est cette espèce de mascarade d'imposture ultra-capitaliste qui se tient à Davos, aux frais, bien entendu, là aussi, des contribuables. Il faut savoir que là aussi, hein, c'est des avions, c'est les militaires qui font joujou, ils s'amusent bien dans la neige, avec moult infrastructures mises à disposition par, évidemment, les sous de tout le monde.
Peut-être on est mieux que le Père Noël.
Ouais, peut-être qu'il y aurait mieux à faire avec ces sous, quoi qu'il en soit. Alors, est-ce que vous auriez envie de réagir par rapport à ça? Le World Economic Forum, pour vous, c'est également une de ces plateformes totalement illégitimes, puisque personne n'est mandaté là-bas. Hein. On a la rencontre d'artistes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire là, de politiques, notamment des différents ministres des économies de différents pays, et puis avec des espèces d'alliances funestes qui se font à demi en secret dans des salons autour de petits fours et de bains à remous, entre une séance de ski et puis de je sais pas quoi, tennis en salle. Enfin, moi je trouve ça juste obscène. Alors j'aurais envie de vous faire réagir par rapport à ça, parce que évidemment la RE3 me choque, Davos me choque, cette attitude de toute puissance et de domination, comme tu l'as dit, Daniel, me choque vraiment au plus haut point.
Oui,
et
puis eux, ils sont vraiment organisés sur un plan international. Donc, d'ores et déjà, il y a un gouvernement mondial. C'est-à-dire, il faut être aveugle pour pas le voir. Et donc, ouais, c'est une stratégie mondiale. Et donc, nous, on est chacun à l'échelle de Genève. Voilà, on raisonne à notre échelle locale. Et on n'est absolument pas fédéré. Donc, face à la domination, il faut une résistance qui soit fédérée. Donc, au niveau local, suisse, international, parce que sinon, on est mangé, quoi.
Ouais. Ouais. Sans parler encore, et après je te laisserai la parole, bien sûr, de ces fameux accords globaux, TISA, TAFTA, CETA, pour lesquels, non seulement, qui sont par ailleurs négociés pour certains d'entre eux ici à Genève, et qui, là aussi, nous promettent des lendemains pour le moins délicats. Tu voulais encore réagir? Micro 2.
Quelle pourrait être la manière de réagir la plus intéressante, en fait? Quel est notre pouvoir par rapport à tout ce monde qui...
Alors, il y a des stratégies d'écologie sociale qui ont été mises en place qui ont été théorisées par Murray Bookchin dans les années 60, où il parlait de à une échelle locale de justement s'organiser et après de fédérer les, c'est-à-dire d'une démocratie directe localement qui petit à petit met en place des moyens d'autonomie, et que ces moyens après soient fédérés, et ça rejoint aussi d'autres, par exemple au Kurdistan il y a un projet social de confédéralisme démocratique qui permet de résoudre aussi la question des identités, c'est-à-dire que justement de fédérer des identités différentes comme les Kurdes, les Arabes, les Yézidis, des minorités ethniques ou religieuses dans une même démocratie. Et donc ça s'appelle le confédéralisme démocratique, qui a aussi été inspiré par le municipalisme libertaire de Murray Bookchin. Et globalement, on parle donc d'écologie sociale quand on parle de ces mouvements-là. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Je pense qu'il y a pas, il y a, c'est difficile de faire de voir une alternative en dehors de ça. Ça me paraît une alternative très intéressante en tout cas.
En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, moi, à mon échelle, c'est simplement acheter d'une façon juste. Oui, c'est-à-dire, c'est le vrai seul combat que je peux avoir dans ma petite vie, mon petit cheminement, c'est d'acheter de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est très difficile à savoir. Bonne manière, c'est un joli mot. Bon, ça veut dire quelque chose de très, très vaste et ça dépend de chacun, le bon. Mais pour comprendre qu'est-ce que le bon achat, il faut quand même y réfléchir un petit peu. C'est-à-dire, où allons-nous mettre l'argent que nous mettons? Où allons poser cette monnaie et à qui allons-nous la donner? Et là est le vrai combat, pour ma part en tout cas.
C'est un des vrais combats. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a le 3 février, il y a les rencontres de Lissignol, donc au 8 Lissignol. Donc c'est des rencontres pour discuter. Et cette rencontre-là, ça va être le thème, ça va être les méandres de la grande distribution cache-t-elle un retour à l'esclavage? C'est-à-dire, effectivement, les conditions de travail. C'est-à-dire, on peut avoir des brocolis bio dans les supermarchés à très peu cher, mais au bout de la chaîne, elles sont faites par des esclaves modernes. Et ça, c'est scandaleux. Effectivement, ça, c'est vraiment une question très importante au niveau international, une question clé actuellement. Et c'est par un ensemble de toutes ces questions qu'il faut le prendre selon la. Chacun à son niveau peut prendre s'attaquer, donc résister face à justement ce monstre, ce Léviathan qui nous attaque.
Il est vrai qu'une personne a très peu de pouvoir envers un grand puissant. Mais 1 million de personnes qui font un achat différent créent un marché. Et si ce marché existe, même la personne qui est au-dessus devra créer ce marché pour nous. Et si nous achetons de la bonne manière, au final, qui devra s'adapter?
Oui, là, c'est un autre problème, parce que ceux qui créent la marchandise, c'est-à-dire il y a les produits, il y a les producteurs qui produisent les produits, et il y a les capitalistes qui produisent la marchandise. C'est-à-dire, eux, il faut faire une distinction entre les produits et les marchandises. La société du futur qu'on souhaite, ce sera un partage de la production, c'est-à-dire, et la production elle sera le fruit d'une libre activité des personnes qui seront pas forcément salariées, mais qui feront les choses pour le plaisir et pour le plaisir d'offrir des produits de qualité.
Mais chaque chose en son temps.
Parce que le problème actuellement, c'est justement le racket de la production par le capitalisme, qui en fait de la marchandise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la marchandise, c'est aussi des produits qui sont distribués parce qu'on peut faire du profit dessus. Donc c'est des produits de mauvaise qualité, des ersatz en général. C'est-à-dire, c'est pas on croit qu'on a quelque chose de bien, mais en fait c'est une image, c'est une surface, c'est quelque chose qui se détruit au bout de très peu de temps. Et voilà. Donc dans un futur, ce qu'il faut voir, c'est des produits qui soient vraiment des produits de qualité pour le plus grand nombre et pas des marchandises.
Alors, mais pour ça, tu dis, ben voilà, 1 million de personnes qui achètent différemment, ça commence à avoir un impact, mais il ne faut pas que ce million de personnes achètent différemment au même endroit. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que ça puisse se faire par petits endroits et que ça reste à petite échelle, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que tout devient à tellement grande échelle qu'au final, ça devient quelque chose de monstrueux, qui est complètement inhumain, parce qu'il n'y a que ce profit derrière. Alors du coup, pas oublier de rester dans les petites choses locales, vraiment à petite échelle, chacun à son niveau, pour grappiller progressivement.
Totalement juste. Mais si cette petite échelle, justement, s'organise peu à peu et s'entraide les unes avec les autres, elle devient aussi grande.
Ah oui, bien sûr.
Et elle fournit une aide à chacun. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que c'est à tous les niveaux. Mmh. C'est-à-dire, le savoir n'est pas seulement dans la nourriture et la connaissance partagée à l'autre. Il faut se battre aussi pour la technologie. La technologie peut être un atout, mais il faut savoir simplement l'utiliser de la bonne manière. Il y a tout ce...
Tout à fait, oui.
Chaque chose a une importance et il ne faut pas revenir au passé. Il faut utiliser le passé qui a servi, utiliser le présent que nous avons et le lier pour essayer d'aller de l'avant.
Tout à fait.
Et ça, c'est très important.
Alors, ça va être le parfait mot de la fin, puisque nous, ici, on va justement essayer de faire ça avec l'atelier Wikipédia qui va suivre d'ici une quinzaine de minutes ici depuis le 6 rue des Grottes. Donc, effectivement, le savoir, le partager, le produire nous-mêmes, le localiser et l'internationaliser en même temps. Tout ce qui a été dit là est très, très intéressant. Ça me permet effectivement également de faire la transition avec ce qu'on va écouter juste après, le podcast de la manifestation contre la venue d'Erdogan au moment où des pourparlers pour la paix à Chypre étaient en cours ici à Genève. Erdogan finalement n'est pas venu, mais les interventions, Daniel, nous y étions ensemble, qui ont eu cours, sont intéressantes et donc on va les écouter tout à l'heure. Et puis, pour en terminer, avant de vous donner encore une fois le mot de la fin, on va le rappeler, effectivement, ces fameuses rencontres du Lissignol. Ce sera la troisième, la prochaine, hein, il me semble. Donc, ce sera le vendredi 3 février prochain. Et effectivement, ce qu'on vient de dire là, d'énoncer ici, aura certainement cours à ce moment-là. Donc, je rappelle le titre, « Les méandres de la grande distribution cachent-ils un retour de l'esclavage ?» C'est un débat avec Reto Kadosh qui nous présentera le projet du supermarché participatif paysan de Mérin, au Verger à Mérin. Donc dès 18h30, une soupe, pain et fromage. À 19h, un documentaire qui s'appelle « Les récoltes de la honte ». Et puis à 20h, la présentation et les discussions. C'est évidemment entrée libre, ouvert à toutes et à tous. Et c'est à la rue Lissignol numéro 8.